Salut, mon nom c'est Félix Duchesne et je suis votre animateur de l'émission Chérie J'arrive. On parle d'art et de culture à tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 pour le retour à la maison. Pour ne rien manquer des nouvelles culturelles à Québec, rejoignez-moi et mon équipe pour parler de cinéma, de théâtre, de poésie, de musique, de variété. On va parler de tous les sujets. Manquez pas Chérie J'arrive, c'est tous les jours de la semaine de 16h à 17h30 sur les ondes de Chiz 94.3.
Le festival ZooFest est off JFL. Part en tournée. Prochain arrêt, Lévis. Viens lâcher ton fou avec nos humoristes invités. Réginald de Saint-Éloi, Mégane Brouillard, Yariana Jean-Louis, Brian Piton, Alex Lévesque et Josiane Bouchon à l'animation. C'est un rendez-vous à ne pas manquer le 6 avril prochain, 20h, à l'amphithéâtre de Lucar, campus de Lévis. Achète ton billet maintenant au ZooFest.com.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
C'est la main! Balle frappée solidement par White du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
Bienvenue à l'émission À ta santé, l'émission où on parle de santé globale dans une ambiance décontractée et sans prétention. À chaque semaine, notre invité est un expert, un étudiant, un travailleur impliqué à améliorer la santé de ses concitoyens. Certains nous éclairent sur leurs sujets d'intérêt, d'autres nous font part de leurs initiatives à portée sociale. La santé, sans hésitation, ça nous concerne tous. Mais qu'est-ce que la santé globale au juste? La santé globale, ou Global Health, est un terme employé pour parler d'interconnexion en santé, dans une perspective mondiale. Ce sont les individus, les organisations et les idées qui sont réfléchies pour que nous soyons tous en meilleure santé. Alors, global en termes d'individus et d'influences diverses, on en discute avec un invité à chaque semaine. Notre environnement, notre société, nos relations interpersonnelles, notre alimentation aussi, thème qu'on abordera souvent cette saison. Donc, place à la détente et à la réflexion avec notre invité du jour. Bonne écoute.
Donc, bon midi à tous. Aujourd'hui, je reçois la docteure Catherine Bégin, qui est psychologue de formation et qui est aussi professeure à la Faculté de psychologie de l'Université Laval, ainsi que chercheure au sein de l'équipe spécialisée sur les troubles des conduites alimentaires du Centre hospitalier de l'Université Laval et aussi à l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels, aussi connu par l'INAF. Donc, bienvenue à l'émission, Catherine.
Merci.
Donc, Catherine, en fait, même si on a l'impression que la pandémie commence à s'estomper un petit peu, elle est encore très présente au quotidien. Puis, il y a eu beaucoup d'effets collatéraux qui ont été étudiés là, depuis les deux dernières années. Puis, en effet, on a remarqué qu'il y avait notamment plus d'anxiété ou de symptômes dépressifs vécus chez les jeunes. Puis ceci a pu se transposer sur les comportements comme l'augmentation, entre autres, des troubles alimentaires. Mmh. On apprenait récemment justement que les consultations à l'urgence liées à la santé mentale chez les jeunes avaient augmenté de 62% dans les trois dernières années. Est-ce que justement c'est un phénomène que vous avez remarqué également? Puis ça, c'est des données, là, je pense, qui venaient de Montréal.
Oui, absolument. Fait que on a la même chose ici là à Québec. En fait, ce qu'on voit, c'est que oui, on a vu une augmentation justement des symptômes dépressifs et anxieux. On a aussi vu chez les jeunes une augmentation de la préoccupation à l'égard de l'alimentation, du poids. Et pour certains jeunes, ça a basculé soit vers des symptômes plus restrictifs, tu sais, qui ressemblent plus à de l'anorexie, ou même de la compulsion alimentaire là, chez certains jeunes, là, et des pertes de contrôle là, au niveau alimentaire. Donc oui, c'est quelque chose qu'on voit. Donc cet indice-là de santé mentale, fait que ça inclut oui dépression, anxiété, mais aussi les troubles alimentaires là, qui sont quand même en augmentation. Et nous, on le voit parce que, dans le fond, moi, je suis directrice là, scientifique du Centre d'expertise sur le poids, l'image et l'alimentation. Et au CEPIA, que je dirige, en fait, on reçoit des demandes de consultation et on a vraiment vu, dans la population générale, une augmentation là, du nombre de demandes de consultation. Et le créneau des jeunes 14-25 ans est un créneau pour lequel aussi on a eu une augmentation des demandes.
OK. Donc, c'est une augmentation, en fait, de partout. Là. Donc, globalement, il y a une augmentation, puis elle est aussi présente ou plus présente peut-être chez les jeunes?
En tout cas, certainement, les jeunes se sont vraiment signifiés. Donc, on a eu des demandes importantes. Je n'ai pas calculé voir si nos demandes devenaient plus, mais je sais qu'il y a eu des demandes de façon plus importante à la fois chez les jeunes puis aussi là, dans la population en général. Ce qui fait que le trouble alimentaire, tu sais, puis j'irais plus largement, les difficultés alimentaires se sont quand même intensifiées. diversifié. Là.
Puis justement, vous parlez de troubles alimentaires, puis juste pour définir un petit peu, là, quand on parle de troubles du comportement alimentaire, vous en avez parlé un petit peu en introduction, là, mais à quoi on fait réellement référence?
Ben, en fait, je dirais qu'il y a trois grands troubles classiques là, qu'on voit à partir de l'adolescence là, jusqu'à l'âge adulte. Il y a d'abord l'anorexie là, qui se caractérise, elle, principalement, cette problématique-là là, par une restriction importante des apports alimentaires qui va faire qu'on va retrouver cette problématique-là chez les gens qui sont vraiment en sous-poids. Il y a vraiment une distorsion au niveau de l'image, donc chez les gens qui souffrent d'anorexie, souvent, ils vont avoir une perception de leur image corporelle qui n'est pas juste. Donc, ils vont continuer de se percevoir comme étant plus grosses, par exemple, alors que dans les faits, ils sont vraiment dans la maigreur. Fait que ça, c'est vraiment plus le portrait anorexique. On va le voir, tu sais, beaucoup dans... C'est la restriction, la rigidité, le fait de vraiment limiter les apports alimentaires. Et souvent, ça s'accompagne aussi de comportements compensatoires, dont de l'activité physique qui serait faite de façon excessive ou encore vomissement laxatif, diurétique. Sinon, à l'autre bout du continuum, on a un bout plus compulsif. Donc là, ça, c'est les gens qui vont se retrouver vraiment avec une impression de ne pas être capable de contrôler leur alimentation, donc plus dans les débordements. Donc là, ça va être la boulimie, par exemple, qui va se retrouver là, ou le trouble d'accès hyperphagique. Puis ce qui distingue les deux, c'est qu'ils font toutes les deux des crises. Donc, toutes les deux vont manger des grandes quantités de nourriture dans un court laps de temps avec un sentiment de perte de contrôle. La distinction entre les deux, c'est que chez les gens qui font de la boulimie, il y a des comportements compensatoires qui vont venir prévenir la prise de poids. Donc, comme je l'ai dit, vomissement, laxatif, diurétique ou exercice physique excessif. Alors que chez les gens qui ont le trouble d'accès hyperphagique, les crises, il n'y a pas de méthode compensatoire qui accompagne les crises. Et là, on va les voir beaucoup plus chez les gens qui sont en surpoids ou en obésité. En fait, 50 % des gens qui ont un trouble d'accès hyperphagique vont aussi avoir une condition physique là, de surpoids et d'obésité. Okay. Je dirais que ça, c'est les trois grands troubles. Donc, l'anorexie dans le pôle beaucoup plus restrictif, rigide. Puis dans la compulsion, là, on a la boulimie, puis on a le trouble d'accès hyperphagique avec la distinction là, au niveau de la présence ou l'absence des méthodes compensatoires.
OK. Puis est-ce qu'on peut avoir, ou on peut être diagnostiqué ou avoir des considérations justement de troubles du comportement alimentaire sans nécessairement être dans une de ces trois catégories-là? Est-ce qu'il y a des gens qui consultaient un peu pour ça aussi?
Bien, tu vois, comme par exemple, chez nous, j'avais fait des analyses là, au CEPIA, j'ai regardé rapidement, là, puis j'ai pas inclus tout le volet de l'anorexie, mais tu sais, on voit que chez nous, moi, j'ai regardé le volet compulsif, bien, tu sais, tu as à peu près le tiers des gens qui ont vraiment un diagnostic franc, là, boulimie ou accès hyperphagique. Le tiers qui ne rencontre pas les critères, soit en termes de sévérité ou de fréquence, par exemple au niveau des crises. Donc, on va appeler ça un trouble alimentaire, mais qui n'est pas spécifié, donc qui n'est pas clair. Mais on a quand même le tiers des gens qui consultent pour une problématique qui est reliée au poids, à l'image, sans avoir de diagnostic là, psychiatrique de trouble alimentaire. Fait que, oui, pour répondre à ta question, il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver à vivre des difficultés, à être préoccupés, puis pour lesquels ça va avoir un impact au niveau de leur fonctionnement ou ça va générer de la détresse sans que nécessairement ça bascule dans un trouble franc. Là.
OK. Puis, est-ce que vous avez été en mesure de déterminer c'est quoi les causes justement de l'augmentation de ces troubles-là chez les jeunes?
Bien, c'est sûr, tantôt, on a parlé en début d'entrevue là, de la pandémie, de ce que ça pouvait générer. Bien, tu sais, quand on regarde la pandémie, tu sais, ce que ça a fait, c'est que ça a mis en relief des facteurs qu'on connaissait déjà comme étant des facteurs qui pouvaient précipiter là, vers le trouble, notamment tout le stress, hein, le fait de vivre des stresseurs. On sait que les stress, ça peut avoir un impact sur la prise alimentaire via, tu sais, d'un point de vue hormonal, mais aussi via comme stratégie de régulation émotionnelle. Donc, on va utiliser la nourriture justement pour venir calmer cette espèce d'état de stress-là. Fait que le stress est un des facteurs qu'on a vu, puis qu'on a vu encore plus là, pendant la pandémie. Un autre facteur qui peut être un facteur de protection, mais qui peut être aussi un facteur précipitant, c'est le fait d'être isolé. Donc, encore une fois, si on fait un lien avec le contexte de la pandémie, il y a eu beaucoup plus d'isolement. Donc, quand les gens se retrouvent seuls, bien souvent, ils ont moins de stratégies justement pour réguler les émotions qui peuvent être, qui peuvent vivre, qui peuvent être difficiles. Et là, la nourriture, ça peut devenir une façon justement de réguler ces émotions-là parce que quand je mange, ça m'apaise. Quand je mange, je ne pense plus à rien. Donc, surtout dans le contexte de la compulsion alimentaire, le stress et l'isolement, c'est des facteurs qui sont importants. Il y a tout le côté aussi, quand, surtout au niveau de l'anorexie, de la boulimie puis des troubles qui s'apparentent à ça. Il y a tout le contexte aussi de... le contexte social, j'allais dire, puis ça aussi, je refais un lien avec la pandémie, mais l'exposition aux médias sociaux, tu sais, quand on était vraiment au début du confinement, tu sais, on voyait qu'il y avait quand même beaucoup de mouvements autour, soit du corps, donc des gens qui commençaient à s'entraîner, qui mettaient vraiment de l'avant là, l'idée d'avoir un corps fit. Puis il y avait aussi, paradoxalement à ça, des gens qui cuisinaient, que c'est l'idée de faire son pain, de revenir, je dirais, à l'origine même, là, de prendre plaisir à cuisiner. Fait que toutes ces espèces de, j'allais appeler ça, des espèces de petits indicateurs où ça pouvait faire en sorte d'amener les gens soit à se comparer puis à vouloir, hey, moi aussi, je vais me mettre en mode entraînement, je vais me mettre en côté, si je peux dire. Ou l'autre idée de dire, ben, tu sais, moi aussi, je vais me mettre à faire du pain, ou des gens qui, en étant exposés à ces stimuli-là alimentaires, d'activité physique, finissaient par se sentir soit pas à la hauteur, puis là, ça dérape là, dans le comportement. Ça en est des facteurs, tu sais, qu'on peut dire qui étaient vraiment, je dirais, intrinsèquement présents pendant la pandémie. Puis on voit l'impact que ça a eu sur, justement, c'est l'augmentation des préoccupations, l'augmentation des demandes de consultation, puis la présence de comportements alimentaires qui étaient vraiment plus problématiques. En dehors de ça, c'est sûr qu'il y a d'autres facteurs. T'sais, ceux-là sont plus des facteurs qui sont, je dirais, plus individuels, puis reliés, par exemple, dans ce cas-ci, là, plus directement à la pandémie. Mais c'est sûr que, tu sais, il y a des tempéraments. Par exemple, quelqu'un qui a un tempérament plus anxieux, ben, face à des situations X, Y, Z, ben, pourrait être plus tenté de recourir à la nourriture, justement, pour venir calmer ce tempérament-là. Puis au niveau de tout ce qui est la compulsion alimentaire, ben, souvent, ce qu'on va voir, c'est que les gens qui sont d'emblée plus impulsifs, qui sont plus sensibles à la récompenses, qui ont comme tendance à être très attirés, par exemple, par les gratifications, mais c'est des gens qui, je dirais, de façon, au niveau du tempérament, vont avoir, tu sais, à ramer pas mal plus fort pour ramener un comportement alimentaire qui est sain, parce qu'ils sont toujours en train de se batailler contre cette espèce de tempérament-là, cet instinct-là là, d'aller vers la substance, là.
Mm-hmm. Puis comme vous mentionnez, en fait, il y a certaines personnes justement qui ont, c'est pas franc, là, donc il y a un diagnostic de trouble alimentaire, mais qui sont peut-être plus à risque. Donc, tous ces éléments-là, ces facteurs-là mis ensemble, a peut-être aussi créé un peu le trouble alimentaire chez quelqu'un qui était potentiellement fragile, si je comprends bien.
Absolument. Fait que tu as comme tes facteurs, par exemple, plus justement, puis tu sais, là, j'ai pas parlé des facteurs plus biologiques, génétiques, hormonaux, tu sais, qui sont comme des facteurs, je dirais, plus stables, puis qui mettent un peu comme l'espèce de, j'allais dire, la semence dans le jardin, là, tu sais, avec une prédisposition à faire que, tu sais, il y a quelque chose qui va pousser. Puis ce qui va faire basculer, bien là, ça peut être justement des aspects plus contextuels, une exposition plus importante aux médias, plus d'isolement social, des stresseurs plus importants, mais ça peut faire que quelqu'un qui avait une certaine vulnérabilité, dans un contexte beaucoup moins stressant, n'aurait pas nécessairement développé le trouble, mais qui là, dans un contexte où on est vraiment plus stressé, plus exposé, plus isolé, mais là, va basculer vers un trouble qui va être plus franc. Mmh. Tu sais, j'allais dire, tu sais, d'un point de vue clinique quand même, tu sais, pour en voir quand même beaucoup de ces gens-là, je pense que, tu sais, le diagnostic, ça nous aide, tu sais, c'est un indicateur, puis ça nous aide aussi à adapter, dans le fond, le traitement qu'on va offrir. Mais pour moi, qu'il y ait un diagnostic ou non cliniquement, quand les gens présentent des préoccupations, quand il y a une obsession au niveau de l'image ou du corps, même si ça ne trouve pas un référent au niveau du diagnostic, je veux dire, ces gens-là sont aussi souffrants que ceux, par exemple, qui ont un trouble franc. Donc, c'est important d'avoir une... Tu sais, je pense qu'il faut s'en intéresser puis s'en soucier autant, là. Mm-hmm.
Puis quand on pense aux troubles alimentaires, on associe ça quand même beaucoup aux femmes. Ouais. En fait, on sait que les hommes aussi peuvent souffrir de troubles alimentaires, mais est-ce que vous avez remarqué justement une différence qui était marquée entre les sexes ou c'était assez similaire l'augmentation des troubles alimentaires?
C'est sûr que quand on parle d'augmentation, de façon générale, comme tu viens de le dire, les troubles alimentaires, on les retrouve beaucoup plus chez les filles. Fait que c'est sûr que l'augmentation qu'on a vue, il y a une augmentation importante qu'on a vue chez les filles et les femmes. Puis particulièrement dans les cas plus, mettons, anorexie-boulimie, où là, le ratio femme-homme est beaucoup plus... L'écart est plus grand. Donc, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes. Quand on tombe dans le trouble de compulsion alimentaire, plus de type accès hyperphagique, là, ceux qui mangent compulsivement, mais sans méthode compensatoire, notre ratio homme-femme est beaucoup plus petit. Donc là, l'écart est moins grand, donc il y a plus d'hommes qui vont se retrouver là. Et nous, on a vu des demandes quand même là, chez des hommes qui faisaient de la compulsion alimentaire, qui sont venus solliciter nos services. Ceci étant dit, pourquoi on les voit moins au niveau de l'anorexie? Bien, je pense que c'est une problématique qu'on a beaucoup associée justement à quelque chose de très féminin. Fait que les garçons se retrouvent peut-être pas autant dans cette problématique-là, mais je mettrais un bémol parce que nous, les hommes, on les voit beaucoup dans tout ce qu'on appelle la dysmorphie musculaire. Là, fait que donc, c'est une autre forme. C'est pas un trouble alimentaire, c'est pas reconnu comme un trouble alimentaire, mais c'est quand même un trouble de santé mentale. Et donc, surtout les jeunes, si on parle des jeunes de 14-25 ans, nos jeunes hommes se retrouvent beaucoup dans cette dysmorphie-là, c'est-à-dire avoir une impression de n'être jamais suffisamment musclé. Et le parallèle que je fais avec les troubles alimentaires, c'est que souvent, dans cette dysmorphie-là, il va y avoir beaucoup, justement, il va y avoir une diète alimentaire, pas dans une optique de perdre du poids, mais dans une optique d'augmenter la masse musculaire. Il va y avoir des entraînements excessifs. Et là où ça ressemble beaucoup à l'anorexie, c'est que ça va devenir très rigide. Donc, ces routines-là alimentaires pour prendre la masse, ces activités-là physiques vont être faites de façon très routinière, une difficulté à déroger. Puis, il y a une souffrance qui peut finir par s'accompagner de ça parce que c'est des gars qui vont, par exemple, continuer de s'entraîner même s'ils sont blessés, notamment. Fait que, tu sais, il y a vraiment des parallèles. Fait que je pense pas que nos hommes sont épargnés. Puis je pense que de plus en plus, justement, tu sais, on l'a vu de toute manière, là, tu sais, il y a de plus en plus de publicités qui vont cibler les hommes avec, tu sais, il me vient une idée, là, il y en a plein d'autres, mais tu sais, mettons, une publicité de Calvin Klein où tu vois un gars, c'est sûr qu'il arrive pas bedonnant, mou, et tu sais, il arrive, il est tout bien musclé. Bon, fait que, tu sais, admettons, ça, c'est un bon exemple, ben, tu sais, ça a son impact aussi chez les jeunes hommes, mais je pense que leur objectif, il est différent. C'est vraiment l'idée d'être plus musclé, donc augmenter la masse maigre, diminuer la masse grasse.
Puis est-ce que c'est ce qu'on appelle aussi la bigorexie?
C'est exactement ça. Tu sais, ça a pris toutes sortes de noms. Fait que oui, la bigorexie, c'est un nom qui a été déjà donné puis qu'on reconnaît. Mais tu sais, dans les vrais faits, là, c'est une dysmorphie musculaire. Là. Mm.
OK. Donc, ça, c'est pas nécessairement reconnu, si on veut, comme un trouble psychiatrique.
C'est reconnu comme un trouble psychiatrique, mais pas comme un trouble alimentaire. Lui, okay. Ce trouble-là, il fait partie des troubles obsessionnels compulsifs. Donc, oui, il est reconnu, mais la dysmorphie musculaire, tu sais, puis là, je veux pas rentrer trop dans les détails, ça devient un peu spécifique, mais c'est un indicateur d'une dysmorphie corporelle, ce qui fait qu'il n'y a pas encore de critères. C'est pas aussi bien organisé qu'un trouble alimentaire. Mais depuis qu'on a la dernière édition du DSM, donc du manuel diagnostique, ce que ça a fait, c'est qu'on a dit, ben, c'est dans la dysmorphie corporelle, qui est l'idée, là, la dysmorphie corporelle, d'avoir un défaut qu'on voit comme étant plus gros que ce que c'est réellement, ils ont mis un sous-onglet et ont dit, attention, il y a de la dysmorphie musculaire aussi. Et là, ça, c'est vraiment la perception de ne pas être suffisamment musclé, alors que la personne, elle est très musclée.
Mm-hmm. Puis, on entend aussi parler d'orthorexie.
Oui.
Peut-être un petit peu moins, mais en même temps, je pense que c'est toujours un présent, là.
Oui.
Puis tantôt, vous parliez justement que bon, durant la pandémie, il y a des gens qui se sont mis à vouloir peut-être améliorer leur alimentation ou cuisiner davantage ou essayer de réduire le restaurant, les aliments pré-préparés, etc. Est-ce qu'il y a eu une augmentation aussi? Puis, est-ce que l'orthorexie pourrait se transformer en trouble alimentaire?
Ben, tu sais, pour moi, là, c'est sûr que ma vision de l'orthorexie, c'est que je trouve que, alors que, tu sais, quand on parle d'anorexie, tantôt je l'ai dit dans les critères, il y a vraiment une question d'image corporelle et l'intention derrière l'idée de perdre du poids, c'est d'améliorer son image corporelle, de correspondre aux idéaux de minceur. L'orthorexie, c'est un peu la même chose, hein? On va couper les apports, tu sais, il va y avoir quand même derrière l'idée de. C'est vraiment l'idée de manger sainement, mais quand même poussé à l'extrême dans le sens de interdire certains aliments, faire en sorte. Puis souvent, il va y avoir une perte de poids aussi qui va se retrouver dans le contexte de l'orthorexie. Ce qui fait que pour moi, je trouve que c'est vraiment selon l'angle qu'on aborde les difficultés alimentaires. Fait que quand c'est pour des enjeux d'image corporelle, on parle d'anorexie. Quand c'est des enjeux vraiment de manger sainement, des considérations même peut-être plus environnementales, là, on est vraiment dans l'orthorexie. Mais honnêtement, pour les voir cliniquement, je te dirais que la présentation clinique est vraiment sensiblement la même. C'est ça. La différence, c'est vraiment sous quel angle ils se présentent, pour quelles raisons ils font aussi attention, pour quelles raisons leur diète est aussi rigide. Ça, c'est là que ça change. Mais pour le reste, c'est assez similaire.
Puis on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Avec les restrictions justement qui commencent, les restrictions sanitaires là, qui commencent à réduire, quoique là, on n'est plus trop sûr aujourd'hui.
Ouais, mais
est-ce que vous croyez que ça a un effet protecteur aussi sur le déclenchement des troubles alimentaires? Le fait de pouvoir retourner un peu socialiser, est-ce que ça pourrait justement réduire un petit peu l'incidence là, des troubles ou ça va continuer à s'accentuer? Parce que j'imagine qu'il y a des gens aussi qui vont peut-être qu'ils vont avoir une certaine anxiété de se remettre là, en mode social ou de présenter leur corps là, comme il est devenu, je ne sais pas. Mais...
Bien, exactement. T'sais, dans le fond, tantôt, puis je pense que c'est ça qui est intéressant, quand on en parlait, on voyait quand même qu'il y a quand même des facteurs prédisposants à la base. Il y a des facteurs plus précipitants qui vont venir jouer. C'est sûr que si on y va dans un contexte où on se dit, les gens vont avoir la chance de revoir des gens, de retisser des liens, tout ça. Fait que le contexte social, ça pourrait, tu sais, autant l'isolement est un facteur de risque, bien là, je dis le contexte social pourrait être un facteur protecteur. En même temps, tu sais, de penser que juste le fait de se déconfiner, ça va vraiment protéger une diminution des troubles, je pense que c'est un peu trop audacieux dans le sens que, tu sais, il y a tellement d'autres facteurs qui doivent être tenus en compte. Et ce qu'on ne sait pas, puis tu l'as vraiment bien dit, c'est dans quelle mesure ce retour-là aux contacts sociaux, est-ce que c'est vraiment naturel, spontané, puis ça se passe bien, ou c'est anxiogène parce que soit j'ai peur d'attraper la COVID ou parce que mon corps a changé puis j'ai peur de l'exposer puis j'ai peur des jugements. Bien, si c'est ça, le retour au contexte social, là, ça ne sera pas un facteur protecteur, ça peut même devenir un facteur aggravant. Puis, c'est là où ça montre vraiment toute l'importance dans ces troubles-là, même si on a des grandes catégories de diagnostics. Il faut vraiment, quand on travaille avec ces gens-là, connaître un peu leur parcours, c'est-à-dire c'est quoi leur facteur à eux. Parmi les facteurs qu'on identifie comme étant ceux qui risquent d'amener un trouble alimentaire, lesquels les caractérisent le plus? Fait que, nous, par exemple, si je prends une jeune qui, de façon générale, a peur du jugement social, qui a tendance à être plus évitante dans les relations... Peut-être qu'elle, de s'être retrouvée chez eux dans une petite coquille, là, ça a quand même été réconfortant. Puis l'idée de revenir dans un contexte social, ça va être très épeurant. Puis à l'inverse, il y en a qui ont été très frustrés, isolés, puis qui ont mangé dans ce contexte-là, que de retrouver des amis, c'est comme juste hey, le bonheur. Puis ça peut vraiment faire en sorte qu'ils vont avoir moins de chances de basculer vers un trouble, par exemple.
Puis en fait, c'est quoi les outils? Bien, vous en avez parlé un petit peu là, justement de le fait de peut-être reconnaître les facteurs prédisposants chez la personne qui a des troubles alimentaires, mais il y a tout autre outil ou des méthodes psychologiques justement pour aider les jeunes qui sont pris avec ces troubles-là. Puis est-ce qu'il y a d'autres ressources? Parce qu'on sait que l'accès à un psychologue ou un psychiatre est plus difficile là, en ces temps-ci. Donc, c'est quoi les ressources qui sont disponibles?
C'est sûr que, tu sais, comme je disais, pour les outils, ça dépend vraiment de, tu sais, dépendamment de où est-ce que la personne se situe, puis c'est quoi les facteurs qui l'ont amené à basculer vers le trouble alimentaire, c'est sûr que ça va jouer. Par contre, tu sais, dans ce qu'il y a disponible, tu sais, il y a quand même des ressources communautaires qui sont vraiment intéressantes, tu sais, comme par exemple, à Québec, il y a la Maison l'Éclaircie, qui peut être une place intéressante. Un, c'est un centre de référence. Deux, qui est probablement accessible. Eux autres, ils regardent vraiment plus l'anorexie, la boulimie, puis à partir de 14 ans et plus. Fait que ça, je pense que ça vaut la peine. Puis, il y a une offre de groupe aussi qui peut être intéressante. Donc, tu sais, à ce moment-là, c'est plus facile d'offrir, de voir plus de personnes à la fois. Sinon, il y a l'ANEM Québec, anorexie et boulimie, qui, eux, ont vraiment comme une ligne d'écoute. Et je pense que la première chose, c'est oui, il peut y avoir des outils, mais je pense que quand on a une place sécuritaire où est-ce qu'on peut justement parler à quelqu'un, nommer ce qu'on vit, je pense que ça pourrait être une première ébauche. Si je sens que, tu sais, mon comportement alimentaire, soit il est très rigide ou à l'inverse, je n'ai pas de contrôle dessus, ben, peut-être que là, je peux me dire, ben, y a-t-il quelque chose qui pour, tu sais, y a-t-il quelque chose qui est en train de se passer? Et ça peut valoir la peine là, d'aller comme dans une ligne d'écoute comme ANEB Québec. L'autre chose aussi, tu sais, je pense qu'ANEB, ils ont mis sur pied, tu sais, comme un site Internet, puis ils ont vraiment fait un bout ANEB ado. Donc, ça aussi, là, je pense, ados, jeunes adultes, là, il y a vraiment beaucoup d'informations qui peuvent être trouvées. Fait que j'irais dans ce contexte-là, je pense, c'est pas tant des outils, mais comme des références. Ce qui est le fun aussi, puis il faut revenir avec ANEB, en plus d'avoir une ligne d'écoute, c'est un centre de référence qui peut aussi guider la personne dans où est-ce que je pourrais aller me chercher des services si j'en ai besoin. Fait que ça peut être vraiment intéressant. Puis de garder en tête, c'est pas un outil, mais c'est un indicateur. Si je sens que mon comportement il est rigide, puis que si quelqu'un m'invite à dîner, puis je suis comme, je sais pas trop, je sais pas ce qu'elle va m'offrir, bien déjà, ça devrait sonner une cloche de, tu sais, il y a quelque chose qui fonctionne pas dans le sens que c'est plus naturel. Tu sais, de ramener qu'un rapport alimentaire qui est sain, bien, normalement, ça devrait être souple. Tu sais, ça devrait être souple, flexible, ça peut s'adapter. Si on n'est plus là, bien, ça vaut peut-être la peine de dire « je vais peut-être aller consulter ». Puis à l'inverse, si c'est devenu comme un peu trop souple, trop flexible, puis que là, toutes les j'allais dire, tu sais, il n'y a plus de barrière, puis tu sais, je mange tout le temps, puis je suis prête à me gérer, bien, là aussi, ça devrait être un indicateur. Puis nous, on a fait, en lien avec la pandémie puis en lien avec un don de Belle Cause, en fait, là, Belle Cause pour la cause, on a eu un don, puis on a parti un site alimentaire qui s'appelle compulsionalimentaire.ca. Et ça, c'est vraiment un site pour les adolescents, jeunes, adultes. Puis contrairement, par exemple, là, j'ai parlé d'ANEB Québec, la Maison l'éclaircie, on est plus dans le trouble alimentaire. Mais nous, compulsionalimentaire.ca, c'était vraiment pour aller rejoindre les jeunes dans les premiers signes, avant même que ça bascule vers un trouble alimentaire. Donc, qu'est-ce qui amène la compulsion alimentaire? Et sur ce site-là, il y a un petit test autodiagnostique, juste pour voir un peu je me situe où par rapport à cette problématique-là de la compulsion alimentaire. Puis là, la personne est capable de voir si effectivement il y a quelque chose qui pourrait être un flag qui pourrait être levé, un petit drapeau rouge. Et là, il y a des liens, là, notamment avec ANEB Québec, là, qui peuvent être faits.
Super intéressant. On va aller voir ça. Puis, en fait, est-ce qu'on connaît un peu les statistiques là, sur, disons, la rémission là, des troubles alimentaires? Parce qu'on reconnaît que c'est une maladie. Donc, est-ce que les gens réussissent à s'en sortir assez bien? Est-ce que c'est pris tôt, justement, dans la maladie, ça va mieux?
Ou... Oui, ça, c'est sûr que oui. Je te dirais que, mettons, les troubles francs alimentaires, les troubles vrais francs, dans le sens qu'on diagnostique, là, pas dans le sens de vrai, mais dans le sens diagnostical, on parle à peu près, tu sais, un petit peu plus que 30 % de cas de rémission complète. On va regarder à peu près un petit peu...
quand même.
Hein?
C'est pas énorme.
Non, c'est pas énorme, tu sais. Ben, mettons, entre 30 et 50 % de rémission complète. Parce que, tu sais, si je rentre tous les troubles, parce que là... Mais quand même, après ça, il y a un autre 20 à 30 % de rémission partielle. C'est-à-dire que les gens, oui, dans l'assiette, ça se passe vraiment beaucoup mieux, mais ils restent préoccupés, ça va rester un souci constant. Puis après ça, on a vraiment des gens, là, un 20 % là, pour lesquels, là, entre 20 et 30 % là, pour lesquels c'est très difficile la rémission, puis ça va se chroniciser, là.
Okay. Puis j'imagine que bon, faut quand même que ça vienne un peu de la personne aussi elle-même, là, de pouvoir mettre en place là, des changements ou améliorer là, sa santé ou du moins son trouble alimentaire. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait, là, quelqu'un qui remarque?
Oui.
Que quelqu'un a changé ou justement...
Ça, c'est important. T'sais, c'est vrai qu'il faut que ça vienne de la personne. Puis souvent, il ne faut pas trop les brusquer, ces gens-là, parce que dans le cas de l'anorexie, ce qu'on sait, c'est que l'espèce d'image idéalisée corporelle, il y a quand même une certaine fierté dans le sens que, je veux dire, les standards de minceur nous sont tellement... proposé, même aujourd'hui encore, même si on parle de diversité corporelle, il reste que c'est resté dans notre univers social, cette idée-là de la minceur. Fait que ça se peut que la personne, il faut y aller délicatement. On peut noter qu'on a remarqué quelque chose, mais il ne faut pas s'attendre à ce que parce qu'on nomme à quelqu'un qu'on voit quelque chose qui va avoir un changement automatique. Même chose au niveau de la compulsion, c'est énormément relié à de la honte, de la culpabilité. Fait que souvent, ces gens-là peuvent avoir une certaine attitude de fermeture. Fait qu'il faut y aller. Je pense que dans un trouble alimentaire, il faut être sensible, puis il faut être respectueux. Il faut y aller vraiment délicatement. C'est ça que je cherchais. Délicat, sensible, puis voir c'est quoi la réponse. Puis si la personne a de la fermeture, bien, t'es mieux d'attendre un petit peu puis de revenir un petit peu plus tard. Il ne faut pas essayer de brusquer en se disant « Hey, regarde, moi, je vais lui dire, ça n'a pas de bon sens. » Parce que souvent, on crée encore plus de fermeture, puis c'est encore plus difficile.
Puis, en fait, là, pour clore un petit peu là, ouais. la séance d'aujourd'hui, on aurait pu en parler encore des heures, là, j'imagine.
Ouais.
Mais je me demandais un peu sur quel projet là, vous travaillez actuellement. Est-ce que c'est justement surtout sur les troubles alimentaires? Est-ce qu'il y a des liens à faire avec la pandémie ou vous êtes sur d'autres choses?
Bien, c'est sûr que nous, on dit avec la pandémie, c'est sûr qu'on a quand même vu toute l'idée. Tu parlais tantôt, puis on a commencé l'entrevue avec ça. T'sais, nous, on travaille sur tout ce qui est adolescents, jeunes adultes. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que plus on va agir tôt, plus on va être préventif, puis plus on va prendre les jeunes avant qu'ils basculent vers le trouble, bien, meilleures vont être nos actions. Fait que le site, le compulsionalimentaire.ca, ça, c'est comme une première ébauche, mais notre idée derrière ça, là, il y a un petit test d'autodiagnostic, mais c'est de mettre aussi des outils pour apprendre aux jeunes à mieux réguler leurs émotions, à mieux identifier avant même de basculer vers le trouble. Fait que ça, c'est vraiment une des grosses parties, là, je dirais, de mon travail. C'est vraiment de travailler en mode beaucoup plus préventif, d'aller chercher ces jeunes-là et de les identifier qui bascule vers le trouble versus qui ne bascule pas. Sinon, bien, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est la stigmatisation en lien avec le poids et la santé mentale, parce qu'on se rend compte de plus en plus que bien, les gens qui sont stigmatisés, bien, souvent, ils vont éviter d'aller chercher des services. Ça va faire en sorte qu'ils vont rester aux prises avec leurs problématiques. Ils s'en veulent énormément parce que, tu sais, ils reconnaissent ces préjugés-là. Puis souvent, même, ils ont tendance à les internaliser. Fait que je m'intéresse beaucoup à l'interaction entre, c'est ça, les stigmas au poids, les stigmas en lien avec les troubles alimentaires et l'accès aux soins, là.
Bien, merci beaucoup, Catherine. C'est vraiment tout le temps qu'on a. Puis, ouais. Bonne chance là, pour la suite. Puis, on va essayer de suivre ça.
Bien, merci beaucoup. Puis, merci de m'avoir invitée. Je suis vraiment contente. J'aime toujours ça venir parler de cette problématique-là là, que j'ai vraiment, que j'affectionne particulièrement. Fait que merci beaucoup.
Mais ça paraît. Bon après-midi.
Bye, toi aussi.
Cette émission est une initiative du Comité SPOT de l'Université Laval, affilié à la Clinique SPOT. En début d'émission, on vous parlait de ce qu'était la santé globale. Ça peut être assez complexe. Ce concept vient de plusieurs mouvements étant arrivé au constat que l'enjeu fondamental de notre société contemporaine, c'est l'inégalité entre les vies humaines. Le Comité SPOT a pour mission de sensibiliser et mobiliser la communauté étudiante